Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her tears or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce deuxième épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Briat. Bonjour Lucie.
Bonjour Léa, bonjour Victoria, bonjour Sarah. Bonjour.
Comment vas-tu?
À toutes. Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Alors, je suis orthophoniste installée au sud de Lyon, en Isère. J'ai 35 ans, je suis maman de deux enfants et j'ai été élue jusqu'à l'an dernier, du coup, élue d'arrondissement dans le 3e arrondissement de Lyon. Auparavant, j'ai des responsabilités politiques au niveau du mouvement des jeunes socialistes.
Merci beaucoup, Lucie. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Sarah Durieux. Bonjour, Sarah.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien.
Est-ce que tu nous parleras un peu de toi, s'il te plaît?
Oui, alors j'étais jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a 2 mois et demi, maintenant directrice de change.org, qui est une plateforme de mobilisation citoyenne qui permet aux gens de lancer des campagnes sur les sujets qui sont importants pour elles et pour eux. Et donc depuis, je n'y travaille plus, mais je continue mon travail. Et donc j'ai appris que mon travail, ça pouvait être décrit comme organisatrice plutôt qu'activiste, puisque en général, ce que j'aide, c'est... j'aide les gens à devenir activistes. Et du coup, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Changer le monde pour devenir activiste ».
Génial, merci. Et il est disponible dans quelle maison d'édition?
Il est chez First.
Ok, super. Écoute, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Victoria Joly. Bonjour Victoria.
Bonjour Léa, bonjour Lucie, bonjour Sarah.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Et bah, à toi de nous parler de toi, du coup, s'il te plaît.
Oui, alors moi je suis collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale et je suis également la présidente de l'association des collaborateurs progressistes qui regroupe en fait les collaborateurs de la majorité présidentielle. Voilà, depuis un petit peu plus d'un an et j'étais auparavant dans une autre vie plus jeune, j'ai été conseillère municipale dans Loire-Atlantique d'où je suis originaire, voilà.
Génial, bah écoutez, je suis ravie de vous accueillir toutes les trois pour ce nouvel épisode de Popol. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. On va parler de MeToo politique et on va parler aussi de la Biélorussie. On va commencer par MeToo politique, si ça vous convient. Près de 300 femmes ont signé une tribune publiée lundi dernier dans le journal Le Monde pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles en politique. Les signataires invitent notamment les responsables politiques à signer un engagement en 3 points contre les violences sexistes et sexuelles, qui consiste à ne pas investir de personnes mises en cause pour violences sexistes ou sexuelles, ne pas donner de parrainage à une personne mise en cause pour violences sexistes ou sexuelles, et ne pas embaucher une personne mise en cause pour violences sexistes ou sexuelles. À ce stade, cet engagement, qui est disponible sur le site internet metoopolitique.fr, a déjà été signé par le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise, Génération.s et Génération Écologie. En parallèle, une pétition qui a déjà recueilli plus de 20 000 signatures a également été mise en ligne et un hashtag #MeTooPolitique circule désormais sur les réseaux sociaux pour permettre aux victimes de s'exprimer sur les violences subies. Il est vrai que, depuis le début de MeToo en 2016, beaucoup de secteurs professionnels ont connu leur propre vague MeToo. Ça a été le cas de la pub, du cinéma, plus récemment le théâtre, mais le milieu politique avait été jusqu'ici relativement oublié. Pourtant, nous le savons, plus il y a de pouvoir, plus il y a de domination, et plus il y a de domination, plus il y a de violence. Alors, d'après vous, pourquoi le milieu politique peine à voir émerger depuis des années une réelle vague MeToo? Et aussi, pourquoi les institutions publiques ont encore du mal à protéger les victimes et à prendre en compte leur parole? Et je vais donner d'abord la parole à Sarah, parce que Sarah, tout comme moi d'ailleurs, tu es signataire de cette tribune. Donc, pourquoi as-tu décidé de signer cette tribune et comment peux-tu répondre à ces questions?
Ah bah oui, je pense que c'était... Enfin, quand je l'ai vu passer, je me suis dit je me dois de signer pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai grandi à Draveil dans l'Essonne. Et donc, mon maire, quand j'étais jeune, adulte et adolescente, et encore aujourd'hui, j'habite plus à Draveil, mais ma famille continue à y vivre, c'était Georges Tron. Georges Tron qui a donc été condamné, qui aujourd'hui est en prison, et je ne sais pas si vous le savez, mais pendant un temps, il a exercé son mandat de maire depuis sa cellule de prison. Et donc, il y avait vraiment une espèce d'inertie des pouvoirs politiques à la fois au niveau national, hein, puisqu'on peut révoquer un maire, hein, c'est possible, le gouvernement peut révoquer un maire, mais aussi des partis politiques qui n'ont pas du tout pris le parti de se désolidariser en fait, de son refus de quitter son mandat de maire, même en étant emprisonné. Et donc, c'est vrai qu'on nous parle souvent de dire tant que la personne n'est pas accusée, tant que la personne n'est pas condamnée, etc. Et là, en fait, on avait un exemple typique d'une personne qui avait été accusée, condamnée, qui est en prison. Et donc, je pense que c'était un symptôme que finalement, ce n'est pas une question de condamnation, c'est une question d'omerta politique, et que donc, on a besoin de lancer ces mouvements pour montrer qu'en fait, il y a une... Et c'est ça, je pense, qui est intéressant dans la tribune, c'est qu'il y a des collaboratrices qui ont signé, il y a des élus qui ont signé, et de montrer qu'il y a une forme de solidarité entre les femmes victimes pour dire publiquement, haut et fort, qu'elles refusent cet état de fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai signé. Et l'autre raison, c'est que moi, je suis plutôt dans les milieux activistes, et donc pas forcément dans les milieux purement politiques, mais avec les élections présidentielles qui arrivent, avec les législatives qui arrivent, il y a de plus en plus d'activistes qui vont travailler au contact d'élus, qui vont travailler au contact de candidats potentiels. Et je pense que c'est important aussi en tant qu'activistes qui agissent dans le champ politique de montrer cette solidarité avec mes sœurs en politique et avec celles qui avant étaient activistes et aujourd'hui sont en politique. On a vu qu'il y avait Manon Aubry qui avait signé, par exemple. Et donc de montrer que c'est aussi quelque chose qui doit concerner le milieu activiste et militant, parce que c'est vrai. Et d'ailleurs, sous le hashtag MeTooPolitique, on a vu des militantes de partis, de syndicats, mais aussi d'associations qui ont aussi partagé des témoignages et ont dit que finalement, ça existait aussi dans ce milieu-là.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de cette vague MeToo après cette tribune, plus concrètement, Lucie ?
Ce qu'on peut attendre de cette tribune, du coup, c'est d'amplifier déjà la libération de la parole, parce que du coup, grâce au mouvement MeToo d'une façon générale, et puis en particulier ce mouvement MeToo politique, on sait encore qu'il y a des victimes qui ne se sont pas déclarées, qui peut-être souhaiteraient le faire, donc je pense que ça va être une première étape. Puis je pense que ce qui est vraiment intéressant à travers cette tribune, c'est vraiment de passer aux actes, c'est pas simplement de rester sur un constat, mais aussi de pouvoir vraiment inciter tous les partis, et j'insiste vraiment sur le côté transpartisan, parce que c'est ça que je trouve extrêmement fort dans ce mouvement MeToo politique, c'est que quel que soit le parti, qu'on puisse dénoncer les viols, les agressions sexuelle, mais aussi tout le sexisme ambiant, les petites remarques, et puis on en reparlera ensuite par la suite, mais tout ce qui peut être de façon insidieuse permet aussi ce genre de comportement d'avoir lieu pour faire en sorte que ça n'arrive plus, tout simplement.
Ouais, ça c'est sûr. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté transpartisan. Alors, on a vu des témoignages effectivement qui finalement concernent tous les partis. Moi, j'ai recueilli beaucoup de témoignages lorsque j'ai écrit mon livre sur la place des femmes en politique, de témoignages qui concernent des situations de violence et qui sont au sein de LR, au sein de LREM, au sein de tous les partis, même chez les Verts, etc. Ce qui m'a surprise, et là je vais laisser la parole à Victoria, c'est de voir que finalement aucune personnalité de La République En Marche n'a signé cette tribune. Et j'en ai parlé récemment avec un assistant parlementaire d'un député de la majorité qui me disait on avait un peu le sentiment que c'était encore un truc de gauche, et si ça reste uniquement un truc de gauche, on a peur que ça fasse un peu un flop. Pourtant, moi, j'ai été en relation avec les organisatrices de ce mouvement et celles qui ont vraiment initié cette tribune, qui m'ont notamment demandé, tiens, qui est-ce qu'on pourrait faire signer comme député. Et j'aurais donné des noms de députés de La République En Marche qui, pour moi, auraient pu très légitimement, parce que par rapport aux conversations qu'on a pu avoir, signer cette tribune. Et elles m'ont dit, non, on n'a pas eu de retour. Ça te surprend, toi, Victoria ?
Alors, personnellement, moi, je n'étais pas du tout au courant de cette tribune et je l'ai découvert dans Le Monde, c'était lundi, je crois, ou mardi, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie exactement. Et on était très nombreuses, en tout cas à notre échelle des collaborateurs et collaboratrices, à ne pas être au courant. Parce que nous, au sein donc de l'association, on a créé différents groupes de travail, dont un qui travaille sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, on est très actif sur ces sujets. Et très honnêtement, on a vraiment découvert cette tribune quand elle est sortie. Donc, peut-être que voilà, des parlementaires ont été contactés, c'est certain, vu ce que tu dis, Léa. Ça, je ne peux pas répondre sur les raisons de pourquoi elles n'ont pas souhaité répondre. En tout cas, je partage ce que dit Lucie et Sarah, et notamment sur le côté transpartisan. C'est sûr que ce n'est pas du tout un problème qui d'ailleurs doit être uniquement porté par la gauche, si pour reprendre un peu cette expression, c'est un problème qui doit être porté vraiment par tous les partis. Mais moi, suite à cette tribune, j'ai écouté un débat, et j'ai trouvé ce débat très intéressant, entre Alice Coffin et Tristan Bannon. Je ne sais pas si c'était sur BFM, je crois. Ça durait 10 minutes et c'était très intéressant d'écouter les deux. Et quand j'ai écouté les deux, je me suis dit, je suis d'accord avec les deux. Dans le sens où Alice Coffin avait un discours vraiment disant tolérance zéro, voilà, tous ceux qui sont mis en cause de près, de loin, écartés, quand Tristan Bannon disait oui, mais attention à la justice et à bien respecter le droit et la présomption d'innocence et en fait accusation ne veut pas dire condamnation. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'entendre ces deux points de vue. Parce que d'un côté, je comprends Alice Coffin et je comprends un grand nombre de féministes dont je peux faire partie, dont on est un peu énervé de savoir en fait qu'au sein d'une collectivité, au sein d'un parti, telle personne a des casseroles, telle personne se comporte mal, mais finalement elle reste toujours dans le giron politique. Et donc, il y a un petit peu un petit côté de dire, mais mince, il faut les écarter. Mais d'une certaine manière, moi, je reste aussi très attachée à la justice. Et d'ailleurs, dans la tribune, c'est écrit écarter les personnes mises en cause et parfois condamnées. Mais mises en cause, ça ne veut pas dire condamnées. Et c'est vrai que mon volet féministe, parfois, voudrait dire, certes, quand on connaît quelqu'un qui est mis en cause, on l'écarte. Mais je suis quand même très attachée à l'état de droit, à la justice, et je pense que non, si on commence à aller là-dedans, c'est potentiellement aller vers un certain nombre de dérives. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la question que je me pose souvent, c'est comment se fait-il qu'on saisisse aussi peu la justice ou que l'on ait aussi peu confiance dans la justice pour vouloir parfois faire peut-être même un peu justice de nous-mêmes et demander à écarter ces hommes problématiques. Et là-dedans, moi, je vois deux sujets et je serais intéressée de savoir si Lucie et Sarah partagent la même chose que moi. C'est d'un côté la lenteur de la justice. Je pense que c'est un vrai problème qui peut complètement dissuader. Quand on disait transpartisan, moi j'ai été concernée par une affaire, j'ai porté plainte en 2017 pour des faits qui se sont passés en 2016, mon procès en première instance a eu lieu en 2020, soit 3 ans après, et là je suis en appel et j'ai toujours pas de date d'appel, donc l'appel n'aura peut-être pas lieu avant 2022, soit 6 ans après les faits, soit 5 ans après avoir porté plainte. Et là-dedans, c'est sûr que moi, j'ignorais que ça allait prendre autant de temps. Aujourd'hui, je vais bien, etc. Donc, j'ai pas de conséquences, de séquelles par rapport à ça. Mais il n'empêche que c'est un parcours du combattant et c'est très pénible. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème, la lenteur de la justice qui peut dissuader des femmes de porter plainte. Et deuxièmement, il y a un tabou, une omerta sur les violences qui est vraiment liée au pouvoir et qui fait qu'on est dans un monde où ce qui régit les codes de la politique, c'est l'influence, le pouvoir. Une personne qui a du pouvoir est à la fois respectée et à la fois crainte. Et on sait très bien, si on est une jeune collaboratrice qui n'avons aucun pouvoir, et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, je précise, nous sommes 54% de collaboratrices. Donc, nous sommes majoritairement des femmes à exercer ce métier. Donc, oui, les femmes aiment la politique et oui, les femmes ont les compétences pour le faire. Mais au final, quand on a, si on sait qu'on avait accusé un gros ténor politique qui a du poids, qui a de l'influence, et ben on sait en fait qu'on va se mettre d'office à l'écart, qu'on va en fait à la fois peut-être perdre notre boulot si on accuse directement notre employeur et surtout, en fait, au moins momentanément, mettre fin à notre carrière politique. Et certaines n'ont pas envie de ça, donc préfèrent parfois peut-être se taire et continuer.
Oui, je crois que c'est surtout ça le nœud du problème. Après, il y a, à mon sens, un autre problème qui est celui des instances qui sont mises en place, des cellules d'écoute, etc., qui ne me semblent pas toujours très adaptées. Quand tu vois, par exemple, celle qui a été mise en place au Sénat en 2018, pour qu'une plainte soit transmise au procureur, il faut que ce soit l'archer qui la transmette. C'est un peu compliqué, sachant qu'il est lui-même concerné par certaines plaintes qui ont été déposées depuis 2018, on comprend bien, on n'est pas trop surprise de voir qu'au final, aucune des plaintes déposées au sein de cette cellule n'a été transmise au parquet. Donc, il y a quand même un gros problème. C'est pareil quand il s'agit de dénoncer des violences au sein d'un parti. Enfin, on le voit. Souvent, les femmes qui décident de dénoncer des violences au sein d'un parti sont obligées de s'écarter du parti, de se mettre en retrait parce qu'on leur dit « Ah, tu déconnes, on est en pleine période électorale, tu jettes en fait l'opprobre sur le parti, tu nous donnes une sale image, on n'a pas besoin de ça. » Donc ça, c'est vraiment super compliqué. Et je ne sais pas, je n'ai pas les solutions, mais il serait quand même urgent de réfléchir à des structures qui soient davantage adaptées. Alors, des solutions, si j'en ai, mais je n'ai pas la solution parfaite, il faut qu'on y réfléchisse encore certainement, et d'autres doivent en avoir, des structures qui permettent aux femmes, ne serait-ce que de parler. Parce que là, tu vois, tu dis, et je suis d'accord avec toi, la présomption d'innocence est fondamentale, mais aujourd'hui, en réalité, on se rend compte qu'il n'y a aucun espace pour ces femmes victimes de violences pour parler. Donc, les femmes se saisissent de l'espace qui reste, et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est le seul espace où finalement on peut parler rapidement, où on peut être entendu, où on peut être écouté. Moi, j'ai lancé un appel à témoignage parce que je suis en train de travailler depuis des années sur un podcast sur les violences sexuelles en politique. Depuis des mois, j'essaie de recueillir des témoignages, je n'y arrive pas. J'en ai quelques-uns, mais je n'ai pas eu cette vague de témoignages que j'espérais en fait, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des violences sexuelles en politique. Et en fait, depuis le lancement de la tribune et depuis MeToo, j'en ai plein. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a ce besoin en fait, de créer cet espace. Il est nécessaire. Sarah, tu voulais réagir, je t'en prie.
Oui, merci beaucoup. Justement, ça rejoint ce que tu es exactement en train de dire. C'est que je pense que pour moi, dans ce débat et les arguments que tu as amenés à Victoria sur est-ce que la personne dit vrai, en gros, est-ce que c'est seulement une accusation ou est-ce qu'il peut y avoir une condamnation? Je pense que pour sortir justement de ce débat qui, pour moi, n'est pas le bon débat, il faut se poser la question du côté systémique de ces violences. C'est-à-dire, l'intérêt d'avoir des témoignages, comme tu le disais à juste titre, Léa, c'est que ça permet à des gens de se dire « peut-être que moi aussi, je peux parler ». Donc, il y a une fonction thérapeutique et de connexion avec d'autres personnes et d'inspiration, etc. pour d'autres. Mais je pense qu'il ne faut pas résumer ce qui se passe à de simples témoignages personnels. En fait, c'est un système qui fonctionne, et ce système, il fonctionne pour des raisons précises. Et donc, pour moi, ce système, c'est le système patriarcal, enfin, on l'appelle comme ça ou autrement, mais c'est cette idée que notre société a été organisée pour permettre à certains de bénéficier de certaines ressources et pas à d'autres. Ça, c'est vrai pour des femmes, c'est vrai pour des personnes non blanches. Et donc, comprendre la nature systémique de ce qui se passe nous permet de ne pas nous accrocher à un cas précis, mais se dire, en fait, c'est massif. Et donc, à partir du moment où c'est massif, il y a une responsabilité, pour moi, en dehors du cadre légal, pour toute organisation d'assurer la sécurité des personnes qui participent à ces espaces. Et pour moi, en fait, un parti politique, sa responsabilité, c'est d'assurer une sécurité dans l'espace dans lequel ses membres, ses sympathisants, ses militants, ses élus évoluent. Et donc, on doit sortir de la judiciarisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les femmes portent plainte, qu'il ne faut pas que les auteurs soient condamnés. Et pour moi, dans le débat politique qu'on est en train d'avoir, il faut sortir de cette idée de la judiciarisation. Il faut poser la question du système. Et en ça, pour moi, la tribune est intéressante parce qu'elle dit on va s'assurer que les partis politiques mettent en œuvre des systèmes pour que l'on sache qui sont les personnes problématiques, qu'elles soient jugées ou non. Ça ne veut pas dire qu'on jette l'opprobre publiquement sur elles, mais on ne leur assure pas des postures de pouvoir dans lesquelles elles vont pouvoir exercer ces violences. Et pour moi, c'est fondamental de ne pas réduire ce débat MeToo politique à est-ce que les gens doivent être condamnés, est-ce qu'ils ne doivent pas être condamnés, etc. Mais plus, comment est-ce qu'on crée des systèmes, des espaces sûrs pour que les femmes politiques, les assistantes parlementaires, enfin les collaboratrices, pardon, ou d'autres personnels politiques puissent le faire en toute sécurité.
Oui, c'est ça en fait, c'est vraiment assurer la sécurité, parce que ça peut dissuader en plus des femmes de s'engager en politique, de se dire en fait, moi j'ai pas du tout envie d'être victime de violence. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui m'ont dit je préfère ne pas y aller parce que j'ai peur en fait. Lucie, tu perçois les choses comment toi?
Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, notamment voilà, sur le côté structurel et même systémique de ce problème et qui se retrouve en politique, mais qui se retrouve, comme tu as très bien dit, Léa, dans des tas de sphères de la société. Après, moi, je pense que voilà, pour sonner ce problème, il faut vraiment avoir en tête que dès qu'il y a une relation de pouvoir ou de domination, la question du consentement, elle est extrêmement délicate à mes yeux. Et ça, c'est quelque chose. Pour avoir traversé, du coup, ce qui s'est passé aussi au sein du mouvement des jeunes socialistes, avec des accusations portées vers son ancien président, il y a quelques années. Maintenant, je pense que cette question du consentement, elle mérite vraiment d'être abordée dans la sphère publique pour prévenir aussi ce genre de comportement. Il y a vraiment différents niveaux d'action où il faut agir. Il faut bien sûr prévenir ces comportements, faire en sorte qu'ils n'existent plus. Et c'est ce que j'exprimais dans ma première intervention. Je pense que ça passe aussi par le fait, on a toutes vécu, je pense, d'avoir des remarques, des postures, des façons de s'adresser à nous en tant que femmes qui ne sont pas acceptables, que ce soit dans le milieu politique comme dans la vie de tous les jours. Et puis aussi de façon peut-être plus insidieuse, justement aussi de se voir les femmes se voient déléguer aussi des responsabilités plus grandes, plus fortes, pour qu'elles soient reconnues pour leurs compétences et pas uniquement être prises là en tant que femmes, mais être reconnues pour leurs capacités politiques qui sont pleines et entières et bien égales aux hommes, pour faire en sorte que justement...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ensuite, on puisse avancer collectivement, et je pense que ce côté responsabilité collective, il doit avoir lieu au sein des partis et plus généralement dans la société.
Je suis bien d'accord, c'est clair, c'est vraiment un problème à prendre en considération dans sa globalité. Victoria, je te laisse peut-être conclure sur ce thème, s'il te plaît.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait Sarah sur le côté systémique et sur l'idée qu'en fait tous les partis politiques doivent se poser la question comment faire en sorte qu'au sein de leur parti les femmes se sentent en sécurité. Ça, c'est un vrai vrai sujet, et j'avoue que moi depuis aussi ce qui m'est arrivé et depuis le fait de naviguer en politique et de naviguer dans les sphères du pouvoir qui sont quand même très masculines, ça pose question. Moi, j'essaie toujours de me dire, OK, en fait, dénoncer, c'est bien, il le faut. Et des fois, malheureusement, tu disais, Léa, des fois, seuls les réseaux sociaux ou parfois seule la presse permet de libérer la parole, et c'est pas normal, en fait, parce que c'est bien, mais on peut pas se réjouir spécialement que ça se passe sur ces réseaux-là. Le fait que tu reçoives, il y a plein de témoignages, ça pose question. Moi, c'est un peu, et après, c'est-à-dire, et ensuite, c'est un peu comme depuis MeToo en 2017, et ensuite qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est à tous les partis, et pas qu'aux femmes de se poser la question. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'engagent aussi sur ces sujets, mais c'est un peu trop un sujet de nana, et c'est un peu le problème, parce qu'il y a vraiment quelque chose à changer. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Donc je pense que c'est bien dénoncé, il le faut, mais derrière il faut que toutes, et je pense que même transpartisan, parce que je pense que les problématiques d'un parti à l'autre sont les mêmes, qu'on se pose la question de comment on change en fait les choses de façon durable et pas uniquement via un hashtag.
Tout à fait, il faut que ce soit un problème qui doit être traité à sa racine, et je pense malheureusement que ça ne va pas se faire en quelques jours. Mais en tout cas, il est important d'avoir cette grosse prise de conscience. Donc bravo aux initiatrices de cette tribune et aux signataires, bien sûr. On va passer au deuxième sujet, si vous le voulez bien. On va parler de la situation en Biélorussie. Depuis des semaines, des milliers de migrantes et de migrants sont pris au piège en Biélorussie à la frontière avec la Pologne, après qu'on leur ait promis d'accéder à l'Union européenne. Ces femmes, ces hommes, ces enfants sont aujourd'hui instrumentalisés à des fins géopolitiques par le président de la Biélorussie, Loukachenko. C'est le moyen qu'a trouvé le dictateur biélorusse pour faire pression sur l'Union européenne afin de répondre aux sanctions qui avaient été décidées par l'Union après sa réélection très contestée. De cette manière, celui dont l'élection n'a pas été reconnue par de nombreux États européens se retrouve propulsé sur la scène politique internationale. Cette tragédie humaine a de nombreuses répercussions politiques, d'abord au niveau européen, où l'on constate l'affirmation d'un climat xénophobe et une tendance d'extrême droite qui commence à s'implanter durablement, avec notamment les 12 États qui réclament la construction d'un mur aux frontières extérieures de l'Union européenne. Mais aussi au niveau national, où, en pleine campagne présidentielle, la question de l'immigration est déjà omniprésente. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette crise peut avoir des conséquences sur l'Union européenne, ainsi que sur les relations entre les différents États? Quelles sont les répercussions au niveau national, et surtout, comment l'Europe peut-elle venir en aide à ces milliers de personnes? Victoria, veux-tu commencer là-dessus?
Merci Léa. Déjà, je pense que juste revenir juste à cette crise humanitaire absolument terrible, c'est-à-dire qu'au-delà des questions de gestion par l'Union européenne et des questions très, très politiques, juste se dire que ces milliers, ce qu'on dirait, ils disent entre 3 et 4 000, on n'a pas forcément des chiffres très précis parce que le régime biélorusse en donne d'autres, mais bon, dans l'ensemble, quand même, on peut dire des milliers d'hommes, de femmes,
il faut rappeler aussi, pardon, je précise juste que les organisations non gouvernementales et les journalistes sont interdits de pénétrer dans la zone. Donc, c'est très difficile d'avoir les informations.
Et donc, d'avoir des chiffres précis, etc. Mais limite, je ne vais pas dire peu importe, mais c'est déjà trop de personnes qui sont livrées à elles-mêmes, à qui on leur a fait croire qu'ils allaient pouvoir avoir une nouvelle vie en Europe. J'ai appris l'autre jour qu'il y avait plus de 40 vols qui faisaient l'aller-retour en fait, entre les pays du Moyen-Orient et Minsk, en leur promettant en fait, des visas derrière, de pouvoir leur ouvrir les portes de l'Europe et d'une nouvelle vie. Et au final, ils sont juste utilisés à des fins de crise géopolitique, de chantage. Ils dorment dans des forêts, vraiment dehors, c'est terrible. Il y a déjà 11 morts officiellement, donc ça veut dire peut-être qu'il y en a d'autres, et en plus l'hiver va être de plus en plus rude. Donc en fait, aujourd'hui, on est sur une crise géopolitique très grave, et surtout sur une crise humanitaire, où en fait, juste la nouvelle arme c'est-à-dire de guerre, parce que c'est trop le mot est peut-être fort, mais cette nouvelle arme de chantage, et le terme pour le coup est peut-être un peu faible, c'est des êtres humains, et rien que ça, c'est absolument abominable.
Oui, c'est certain. Moi, ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est l'incapacité de l'Union européenne, c'est un manque de volonté politique, hein, c'est certain, parce que je pense en termes de moyens, les moyens sont là, on peut venir en aide à ces personnes-là, de venir en aide à ces personnes-là. Je veux dire, la seule qui a réagi au niveau européen, c'est Angela Merkel en disant qu'il fallait créer un corridor humanitaire pour exfiltrer au moins 2000 personnes de cette zone où elles sont prises au piège. Ça, c'est quand même hallucinant. Je ne sais pas, Sarah, tu vois les choses comment, toi?
Moi, je trouve ça affreux. Enfin, franchement, je suis désolée, ça ne va pas être une analyse politique très poussée, mais genre, ma première réaction, c'est « Mais qu'est-ce qu'on est devenu, en fait ? Mais qui sont nos leaders ? Mais comment on peut avoir un tel manque d'humanité ?» Et là, on est en train de parler. Je regardais hier, il y a un enfant d'un an qui est mort de froid, en fait, dans une forêt. Il y a un homme qui a tenté de s'enfuir, qui a été tué par... d'ailleurs, je ne sais plus si c'était du côté polonais ou biélorusse. Enfin, on est en train de laisser des gens mourir pour des raisons qui, pour moi, me dépassent. Enfin, vraiment. Et moi, ce que ça, du coup, pour rentrer plus dans le côté analyse politique, ce qui me semble hyper intéressant à comprendre dans cette situation, au-delà de l'urgence humanitaire, c'est à quel point la présence de personnes réfugiées et migrantes est un outil de pression politique à partir du moment où on décide qu'accueillir des personnes qui sont en danger et qui fuient leur pays est un problème. C'est-à-dire que cette crise, ça me fait beaucoup rire d'entendre des responsables européens dire « c'est une attaque hybride », enfin, on est en train de parler de juste de gens qui sont au cœur de l'Europe, et en fait, je pense que Loukachenko, il a tout à fait compris ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'il a dit, c'est quoi en gros le point faible de l'Europe ? Eh bien, c'est leur xénophobie, c'est leur problème avec l'immigration. Et donc, cette crise politique, elle se résout d'une manière très simple. C'est arrêter d'avoir peur des personnes qui sont réfugiées et qui essayent de quitter des situations, des pays dans lesquels il y a la guerre civile. On parle d'Afghans, on parle d'Irakiens, on parle de Syriens. Je pense qu'on est suffisamment conscient de ce qui se passe pour se dire que cette crise politique, elle se résout en une minute. C'est d'arrêter notre xénophobie. Et je trouve que ça nous apprend beaucoup aussi pour l'élection qui nous vient, c'est que finalement notre racisme, notre xénophobie, non seulement elle est problématique moralement, non seulement elle affaiblit notre démocratie, mais en plus elle affaiblit notre potentiel de diplomatie internationale et notre capacité à faire respecter les droits humains à l'étranger. C'est-à-dire à partir de quand on peut donner des leçons d'humanité à des dictateurs qui sont aux portes de l'Europe quand nous-mêmes, on n'est pas capable d'avoir de respecter le droit international. Je rappelle quand même que, enfin, je regardais exactement ce qui se passait, mais il y a ce qu'on appelle des pushbacks, c'est-à-dire qu'on renvoie des migrants vers... En fait, c'est l'idée de... de refouler ces migrants. Donc 90% des réfugiés qui ont été arrêtés côté polonais ont été renvoyés à la frontière et laissés en pleine forêt. Et c'est pushback, donc ça s'appelle comme ça. C'est illégal au regard du droit international, mais c'est largement pratiqué aux frontières de l'Union européenne. Donc à partir de quand, en fait, on peut exercer une diplomatie de la paix quand nous-mêmes, sur notre territoire, on ne respecte pas le droit international, on s'affaiblit nous-mêmes. Donc moi, c'est ça que, au-delà de la, je suis désolée, j'étais un peu longue et ça m'énerve énormément, mais au-delà de l'aspect humain, je pense qu'il y a une vraie question de géopolitique et comment est-ce qu'on peut exercer la paix dans le monde quand nous-mêmes, on n'est pas capable de respecter des principes tout simples.
Oui, c'est clair. Ça, je suis tout à fait d'accord. Tu as mis le doigt sur quelque chose de très important. Lucie, toi, qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette situation et est-ce que tu penses que ça peut avoir des répercussions sur notamment la campagne présidentielle?
Alors, je vais essayer de faire trop de redites par rapport à tout ce qui a été dit, mais effectivement, je pense que la première question, quand j'entends des interventions de responsables politiques de différents partis, la première réponse, elle est humanitaire avant tout, parce que nous, on a peut-être le temps de blablater, mais en fait, des personnes sont en train de mourir. Et voilà, on en a parlé, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes parfois porteuses de handicap, c'est extrêmement dramatique. Et ce sont avant tout elles-mêmes des victimes. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Elles sont là, elles ont été complètement instrumentalisées par le régime biélorusse. Et du coup, la première urgence, la première des réponses, elle est humanitaire. Donc ça me paraît essentiel à rappeler. Et j'ai l'impression qu'on le perd de vue parfois sous le terme « les migrants ». Voilà, on parle des migrants, ils ne peuvent pas trop avoir eux-mêmes la parole. Donc on parle un peu à leur place parce que malheureusement, ils n'ont pas non plus les moyens de pouvoir exprimer toujours leur situation. Comme tu l'as rappelé, Léa, les conditions d'accès à l'information sont extrêmement graves et je disais même qu'il y avait une guerre de communication aussi en Biélorussie par le fait que le gouvernement diffuse des images à la télé d'État montrant des organisations biélorusses et que c'est vraiment très cynique comme comportement de leur part du coup en montrant d'un côté on amène des personnes migrantes aux frontières dans un no man's land qui est terrible et ensuite on fait en sorte de montrer que des ONG agissent c'est la Croix-Rouge je crois biélorusse pour pouvoir les aider. C'est un comportement extrêmement cynique et absolument inhumain. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Bien sûr, ça montre les failles de l'Union européenne aussi face à la montée des comportements xénophobes, racistes que Sarah a largement développé. Et je pense que par rapport à l'écho aux élections présidentielles, effectivement, c'est assez dramatique parce que du coup, ça vient à un moment donné où, de toute façon, on sait que l'immigration, c'est un thème qui est surabordé, en tout cas, à mon sens, dans le débat politique, et que c'est aussi une façon de pas affronter les vrais problèmes de cette violence, de faire en sorte de combattre cette misère humaine, qui est, je dis bien humaine, parce qu'elle dépasse la question d'un État, même de l'Europe, et c'est une vraie question, et on parle, en effet, de peut-être 4000 personnes, alors effectivement, on n'a pas selon des chiffres extrêmement précis. Mais du coup, c'est vraiment dramatique que ça prenne cette place-là. Et là, il y a aussi une responsabilité qui est collective, qui est à la fois des dirigeants politiques, mais également des médias, pour faire en sorte que cette question elle soit traitée à sa juste valeur. Et moi, justement, ce qui a fait que je me suis poussée à l'engagement, ce sont les valeurs. Et moi, mes valeurs, ce ne sont pas celles de M. Zemmour, ce ne sont pas celles... que j'entends non plus, quand je tombe sur 5 minutes de débat au sein des Républicains, on ne parle que de ça, on a l'impression, il y a toute une bataille culturelle aussi autour de la question de l'immigration qu'il faut absolument combattre, et non, il n'y a pas d'envahissement migratoire, non, il n'y a pas d'attaque, et quand c'est repris en tant que tel, parfois sur certains médias, moi, ça me fait terriblement peur, et je pense que c'est important de pouvoir condamner cela.
Ouais, c'est clair. Sarah, tu voulais ajouter une petite note d'espoir dans cette discussion.
Ouais, enfin, je ne sais pas si ça sera suffisant, mais juste, du coup, je parle avec des amis activistes polonais qui me disaient que, en fait, comme d'habitude, les citoyennes et citoyens sont là quand on a besoin d'eux, et donc parfois auto-organisés. Et donc, il y a apparemment des familles polonaises qui commencent à accueillir certaines de ces personnes qui sont bloquées directement dans leur maison, donc se mettant aussi dans l'illégalité. Et donc, je pense que voilà, ça nous donne aussi une note d'espoir qu'on peut s'auto-organiser quand nos dirigeants ne savent pas faire les bons choix.
Ouais, c'est clair. Merci beaucoup à toutes les trois de vos analyses très intéressantes sur ces deux thèmes. On va passer à vos actualités et on va commencer avec toi, Victoria. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Moi, je me suis dit que j'allais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment et qui peut faire un peu écho au premier thème qu'on a abordé sur le mytho politique. J'ai lu un livre, je crois que je me suis à peu près étouffée une page sur deux. C'est La fabrique des élites des rails, de l'auteur qui s'appelle Iban Rice. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, c'est un journaliste indépendant qui en fait a enquêté, et je vous conseille toutes les trois de lire ce livre, sur les écoles HEC, les DEC et les SEC, sur donc les plus grandes écoles de commerce de France, sur toutes les dérives, et à la fois les dérives, alors c'est la culture du viol dans tout ce qui est plus magnifique, et également en fait la façon dont ces écoles, mais c'est surtout même les associations dans ces écoles qui sont très très importantes et qui en fait qui régit en fait un peu l'école, et ces écoles, comment c'est organisé. Et beaucoup, j'ai été très choquée de voir en fait que les jeunes qui sont dans ces écoles, qui sont entre 20 ans et 23 ans, c'est quand même souvent en général une période où on se construit, en fait, pendant plusieurs années, sont soumis à énormément d'humiliations, de mépris, d'agressions, finalement, tout ça dans une forme d'impunité, vraiment dans une forme d'impunité totale. Et ça m'a énormément questionnée parce que je me suis dit, ces jeunes-là sont aujourd'hui et demain vont être les dirigeants, parce que quand on a fait ces écoles-là, on est amené à avoir des postes de cadre très hauts. Et je me dis, comment ils ont été, pas forcément formés au sens académique, mais construits aussi mentalement. Et quand on est humilié, quand on leur dit au quotidien qu'ils sont rien, qu'ils sont obligés de passer des tests super durs pour rentrer dans une asso, et voilà, en plus de tout ce qui est le culture de viol, mais ça limite, on s'en doutait, mais j'étais très frappée sur le côté humiliation, mépris. Et je me dis, ces nouveaux, ces futurs cadres dirigeants, mais comment ils vont conduire en fait leurs entreprises, comment ils vont diriger, comment ils vont manager. Et quand on disait tout à l'heure qu'il fallait reprendre le problème un peu à la source, je pense que là il y a une grosse source à creuser. Et en tout cas, je vous conseille ce livre. Alors c'est vraiment, c'est une enquête journalistique, mais il questionne beaucoup comment on forme une partie de ceux qui vont nous diriger demain, et ça en dit long sur ce qui peut ensuite se passer quand on est davantage adulte, que ce soit dans le monde de l'entreprise, mais également dans le monde politique. Voilà. C'est mon conseil de lecture du jour.
Merci beaucoup, Victoria. Et on peut aussi dire que c'est valable pour des écoles comme Sciences Po. Moi, même à Assas, hein, je l'ai vécu. Quand on prépare l'ENA, ce qui a été mon cas en pré-ENA, c'est l'enfer. Voilà, t'es moins que rien. Enfin, bref, c'est vrai. Et puis, ça une espèce de concurrence organisée aussi qui est très malsaine. Donc, ouais, je crois que tu as raison. Ça peut laisser, à mon avis, des traces sur certains et certaines après dans leur carrière professionnelle. Merci beaucoup. Sarah, de quoi voulais-tu nous parler, toi ?
Alors, je voulais vous parler des mamas activistes, qui est un mot que j'ai inventé hier soir. Donc, vous n'en voulez pas, c'est un peu...
Tu l'as déposé,
Eline ? Je ne l'ai pas déposé encore. Je ne suis pas sûre que ça vaille le coup. En gros, je voulais vous parler des mamans activistes. Et alors, pourquoi je voulais parler de ça ? C'est parce que, après 10 ans à travailler chez Change.org, au bout de 10 ans, enfin, j'ai convaincu ma mère de lancer une campagne pour sauver la forêt de Sénart, à côté de laquelle elle vit, qui est une des plus grandes forêts d'Île-de-France et dans laquelle il y a régulièrement des coupes. Qui servent à l'exploitation du bois qui a pour but d'être beaucoup exporté d'ailleurs. Donc c'est une exploitation de manière commerciale de la forêt. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste je trouve ça génial parce qu'elle, qui justement n'était pas une activiste très engagée, a vraiment décidé de se mettre à fond. Elle est devenue experte du sujet. Ils ont monté une coalition avec les 7 forêts d'Île-de-France. Ils ont fait un appel des forêts. Enfin, en gros, elle m'inspire trop et je me suis dit, ma maman n'est pas la seule. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, il y a eu une action qui a été menée par des militants de Alternatiba. Et donc, c'était au Climate Finance Day. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu le speech de Bruno Le Maire a été interrompu par des activistes qui ont dit, en fait, la finance, c'est quand même l'outil principal, l'orientation, en fait, de nos fonds vers des projets qui n'ont pas un impact négatif sur l'environnement. C'est quand même le meilleur outil pour faire changer les choses. Et donc, ils ont mené une action là-bas. Et parmi les personnes qui menaient cette action, il y avait la maman d'une militante d'Alternatiba qui s'appelle The Real MC, que vous pouvez suivre sur Twitter, et donc qui a été mise en garde à vue pour avoir interrompu cette action. Et donc, elle a expliqué en quoi sa mère, elle était hyper fière que sa mère soit présente sur cette action, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir comment nos mères, qui sont toujours les images de douceur, de protection, peuvent aussi devenir des protectrices de notre avenir en devenant des activistes activiste. Et du coup, moi aussi, ça fait conseil de lecture. Là-dessus, je voulais vous parler du livre de Fatima Wassak, et en particulier parce qu'elle a subi beaucoup d'attaques cette semaine, et pour des raisons que je pense qu'on aurait du mal à s'expliquer, nous. Mais en gros, elle a développé un livre, une théorie politique qui est absolument fascinante, dans son livre qui s'appelle « La puissance des mères ». Donc, je vous conseille vraiment de le lire. Et en gros, elle dit que les mères sont toujours des enfants, qu'elles défendront leurs enfants quoi qu'il arrive, et qu'en ça, elles deviennent aussi des sujets politiques quand elles assument de défendre l'avenir de leur enfant et pas juste de jouer un rôle de tampon entre ce que les institutions, souvent d'ailleurs racistes, etc., nous demandent de faire envers nos enfants et ce que nous, on fait pour protéger nos enfants. Donc, je voulais faire un big up à toutes les mamas activistes aujourd'hui et leur dire de continuer.
C'est génial, merci beaucoup Sarah pour ces éléments et puis pour les petits conseils de lecture aussi. Merci. Lucie, de quoi voulais-tu nous parler toi s'il te plaît ?
Alors j'avais également un conseil lecture à vous donner, mais du coup voilà, je vais improviser et je voudrais simplement adresser un message de soutien aux sages-femmes. Voilà, qui ont été en grève il y a peu de temps, un métier dont on parle peu, elles sont peu nombreuses en France, il me semble 20 000, 22 000 de mémoire, en tout cas. Vraiment, c'est peu de professionnels de santé et elles sont ô combien importantes au sein du système hospitalier et elles ont des conditions de travail extrêmement difficiles avec des horaires, hein, soit en hôpital, mais aussi en libéral pour des rémunérations qui sont absolument, à mon sens, indécentes par rapport aux responsabilités qu'elles ont. Et voilà, du coup, ça fait écho à plein de choses dont on a évoqué de façon... de façon plus large dans notre débat de tout à l'heure, mais je voudrais juste leur adresser un message de soutien parce que c'est une profession que j'ai découverte ces dernières années et vraiment pour laquelle j'ai énormément de respect. Ce sera le mot de la fin.
Merci beaucoup, effectivement. Big up aux sages-femmes et on les soutient dans leur combat et on les remercie d'être là au quotidien aussi parce qu'effectivement, c'est un métier qui est très important. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cet épisode de Popol. J'ai été ravie de vous accueillir. Je vous souhaite une très belle journée puis on va à la manif. On se retrouve à la manif. À bientôt, merci beaucoup.